RCF.
Lorsque l'on est amoureux, on jure que c'est pour toujours. Cela paraît si clair, si évident. Et puis au fil des mois, la certitude des débuts s'obscurcit quelque peu, on commence à comprendre que la partie ne sera pas aussi facile que ça. Il y a les premiers conflits ouverts, l'incertitude de l'avenir, les tracas du quotidien, bref, la réalité reprend le dessus. Et l'amour dans tout ça, comment faire durer la promesse d'un « je t'aime pour la vie » en se frottant à un réel si décapant. Christian Simonin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute.
Oui.
Vous rencontrez des hommes et des femmes qui s'interrogent sur leur couple, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas également. Alors qu'est-ce qui les pousse à frapper à la porte de votre cabinet généralement ?
Le plus souvent, c'est un problème de crise. C'est-à-dire que déjà, depuis quelque temps, les choses ne vont pas bien, que... Vivre la réalité de tous les jours dans le couple, c'est pas toujours simple, même s'il y a de l'amour. Et puis, il y a toujours un moment où on est amené à perdre tous les fantasmes qu'on peut avoir sur l'autre, que la réalité va prendre le pas sur l'imaginaire, que l'autre n'est pas tout ce qu'on croyait qu'il était, que l'autre n'a pas que des qualités, qu'il a aussi ses faiblesses et que ça fait partie des éléments de la réalité à prendre en considération dans un couple. Donc, cette difficulté à faire ce passage-là amène beaucoup de couples à vivre une crise. Et quand les gens vivent des crises qu'ils n'arrivent pas à dépasser eux-mêmes, ni l'aide avec l'aide des proches, des amis, à ce moment-là, ils viennent consulter. Et c'est le rôle du psychothérapeute de les aider à regarder cette crise qu'ils vivent et puis à les accompagner pour leur permettre, si possible, d'en sortir et d'en sortir grandi au niveau de leur vie de couple.
Vous avez parlé du mot crise. À quel moment situe-t-on ces premières crises qui viennent de l'altérité, de l'acceptation de la différence de l'autre, frottement au réel, sortie de l'imaginaire ? On peut situer ça dans le temps de la vie d'un couple ?
C'est très difficile à situer. Il y a des couples qui rentrent très vite là-dedans. Et puis, il y en a qui ont besoin d'années ou même parfois de décennies pour en prendre conscience. Parce que tant qu'il n'y a pas une prise de conscience très claire du décalage qu'il peut y avoir entre deux personnes qui vivent ensemble, je dirais la crise, elle est larvée et elle ne se manifeste pas forcément. Tandis que quand on commence à réaliser que c'est comme ça, que c'est pas autrement. Effectivement, à ce moment-là, la crise peut se concrétiser très vite.
Alors, lorsque l'on aime, on est deux. Effectivement, vous avez parlé de gêne. À un moment donné, l'autre commence à nous insupporter. Il y a une difficulté à vivre avec l'autre. Un trait de caractère, par exemple, qui peut me faire penser à quelqu'un. Mais tout ceci peut se jouer à un niveau inconscient, bien sûr.
Oui, au départ, ça se joue toujours à un niveau inconscient. Hein. Et justement, le problème, c'est d'arriver à rendre les choses conscientes pour les deux. S'il y en a qu'un qui est conscient et que l'autre n'est pas conscient, les choses ne bougeront pas bien. Donc, quand l'un et l'autre, je dirais, prennent conscience de leurs difficultés à chacun et la difficulté dans la relation du couple, là, les choses peuvent bouger. Là, les choses peuvent se transformer.
Alors, donnez-nous un exemple de crise quotidienne, pratiquement, quelque chose d'assez banal.
Oh, il y a des tas d'exemples qu'on pourrait prendre. Ça peut être à propos de la répartition des rôles dans un couple, dans une famille, surtout s'il y a des enfants, surtout si les deux travaillent, surtout si les deux sont pris, surtout si les deux ont des personnalités, je dirais, assez différentes. Il est bien évident qu'à ce moment-là, ça peut partir sur une toute petite difficulté qui est plus un révélateur, je dirais, qu'une cause. On peut s'accrocher vraiment sur des histoires de vaisselle, sur des histoires qui va emmener les enfants à l'école, ou c'est des histoires sur l'organisation des vacances. Enfin, tout peut être prétexte, je dirais, à une crise justement de se concrétiser.
Mais lorsque l'on vit une histoire amoureuse, on sait très bien qu'en toile de fond, il y a une autre histoire, c'est celle de nos parents. Et ça n'est pas rien, puisqu'on est en couple, on a vu ses parents en couple. On peut justement mélanger les histoires et on peut attendre des choses de notre conjoint que l'on a vu attendre chez notre mère, par exemple, par rapport au père.
Oui, tout à fait. Et c'est justement une des difficultés. Nous avons tous le modèle de nos parents, même si nous ne les avons pas connus, ce qui arrive parfois, nous en avons toujours une imagination. Et cette imagination, on arrive dans un couple avec cette imagination. Et l'autre vient aussi avec sa propre histoire, sa propre imagination. Et lorsque les choses, je dirais, sont en décalage l'une par rapport à l'autre, il y aura forcément pour l'un et l'autre à recaler ça. C'est-à-dire, tiens, elle est comme ci, elle est comme ça, elle fait comme ma mère ou comme ma grand-mère. D'accord ? Tant que je n'en ai pas conscience, je ne peux pas avoir l'autre comme elle est. Et puis, en même temps, l'autre n'est ni ma mère, ni ma grand-mère, ni tout un tas d'autres femmes que j'ai pu connaître. Et tant que je ne l'ai pas vue comme elle est, je ne risque pas de pouvoir me mettre en accord avec elle. Et elle, pareil, dans l'autre sens. Donc, toutes nos histoires personnelles et familiales, nous les amenons dans le couple. Et plus nous avons de recul avec les histoires de nos parents et grands-parents, je dirais plus nous avons de liberté pour pouvoir vivre avec l'autre nos différences et à ce moment-là trouver quelque chose qui nous convienne bien dans notre fonctionnement de couple.
Repère sur RCF.
Christian Simonin, durer dans une relation à deux suppose de s'adapter au réel de l'autre, à sa différence au quotidien. Cela suppose donc d'accepter les frottements dont on parlait tout à l'heure. Il y a les petites crises de la vie quotidienne et puis il y a les grosses crises, les grandes étapes dont on parle dans la vie d'un homme et d'une femme. Qu'est-ce qui les déclenche généralement ?
En général, c'est la non-acceptation de ce qu'est l'autre, qui peut se sentir nié, de l'autre qui ne se sent pas reconnu. Et dans ces situations qui sont un peu extrêmes, il est bien évident que le plus souvent, les gens réagissent d'une manière épidermique, d'une manière très émotionnelle, qui peut parfois être violente, et que par rapport à ça, si l'autre n'est pas capable de prendre le recul nécessaire et qu'il part sur le même fonctionnement, il est bien évident que cela conduit à la crise.
Donc crise ouverte qui peut tourner à la violence, violence verbale, mais violence physique aussi.
Ça peut être la violence verbale, ça peut être la violence physique à l'égard de l'autre ou à l'égard de soi-même. Et qu'il y a un moment où il est important qu'une prise de conscience se fasse et qu'en même temps que chacun puisse prendre un recul sur le plan de ses émotions par rapport à la crise. Et ça peut effectivement demander une aide extérieure qui permet ensuite à chacun de prendre le recul par rapport à la situation de crise, d'une part, et puis de voir que dans un couple, il y a de plus en plus de couples qui fonctionnent comme ça, il y a aussi de l'amour. Mais que dans la crise, il y a souvent une confusion entre l'amour et la haine, qui sont les deux faces, je dirais, de la même pièce. Mais si on ne voit que l'une ou qu'on ne vit que l'une, il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Donc il est important que progressivement, en sortant de la crise, en prenant du recul avec l'émotion, par exemple l'émotion violence ou l'émotion haine, les gens puissent voir qu'ils sont aussi dans une relation d'amour.
Alors quand on est dans la haine ou dans la violence, on sent bien qu'il n'y a pas de place encore pour la parole, ça viendra peut-être plus tard. Mais comment passer de l'extrême violence ou d'un sentiment extrême qui est peut-être autre à la parole ? Comment la parole peut se développer petit à petit ?
C'est vrai que pour qu'il y ait une vraie parole où les gens puissent exprimer leurs difficultés, il faut que les émotions ne soient pas trop fortes. Sinon la parole est bloquée et les gens ne sont que dans une réactivité à ce qui se passe, à la frustration. et qu'il y a parfois la nécessité que les gens acceptent pendant quelques jours ou quelques heures ou parfois quelques minutes de ne pas parler, de se retirer à l'intérieur d'eux-mêmes, ou parfois c'est quelque chose qui peut se faire en allant se promener dans la nature, ou en allant dans une autre pièce, ou en allant faire un tour pour se retrouver soi-même. C'est-à-dire ne plus être l'esclave de ces émotions qu'on a vécues il y a quelque temps. À ce moment-là, si je suis vraiment plus dans mes histoires à moi, plus centré sur moi, à ce moment-là, j'ai un certain recul qui va me permettre d'aller parler à l'autre.
Christian Simonin, un couple qui traverse une crise est bien sûr un couple fragile. Cette crise, c'est vrai qu'on peut l'éviter, on peut la fuir. Il existe une stratégie d'évitement où on va essayer de reporter les affaires, de continuer sa vie. Ça marche pas forcément bien, mais on se dit, allez, on va de l'avant, on refoule quelque part, enfin, on rejette à l'extérieur ce qui nous gêne.
Oui, il est bien évident que si on rejette à l'extérieur ce qui nous gêne, ou qu'on croit le faire en tout cas, et que les choses ne sont pas résolues à l'intérieur, ni de moi, ni de l'autre, ni de la relation, ça va ressortir un jour ou un autre. Hein. Donc il est toujours important de pouvoir revenir à ce que je vis moi pour accepter que l'autre vive ce qu'il est en train de vivre. Et que si je me contente de refouler ces choses-là, ça va ressortir avec une violence bien plus importante plus tard.
Et on voit d'ailleurs certains hommes ou certaines femmes qui partent, qui quittent leur conjoint, se disant « moi, je vais refaire ma vie avec quelqu'un d'autre » et le processus se rejoue avec une autre personne.
Voilà. C'est-à-dire quand on n'a pas compris que l'on est personnellement responsable, chacun, de la crise du couple, quand l'on croit que dans une crise, je ne suis pas responsable et que l'autre est entièrement responsable, il est bien évident que si à ce moment-là, je pars, je veux aller reproduire avec quelqu'un d'autre la même chose. Mais si dans la crise, je me réapproprie ce qui m'appartient et que je reconnais ce qui appartient à l'autre, à ce moment-là, il y a des possibilités que les choses se dénouent. Et si, par exemple, le couple n'a pas pu continuer parce que les choses ne se faisaient pas bien des deux côtés, de revivre un autre couple ailleurs, si je le revis, je dirais, avec toutes les évolutions personnelles que j'ai pu faire à l'occasion de la crise, il est probable qu'il y a des choses que je ne vais pas refaire.
D'où l'importance de prendre conscience, de prendre du recul par rapport à ce qui se vit instantanément, les émotions, la vie courante.
Voilà. Et par rapport à la crise, il y a quelque chose de très bénéfique qui peut être tiré, ce qu'on pourrait appeler l'héritage de la crise. C'est-à-dire, lorsque j'ai compris quelque chose, eh ben, je ne vais pas le reproduire. C'est-à-dire que si quelqu'un est allé vivre une crise une fois, qu'il a compris quelque chose, peut-être que la fois d'après, il vivra non plus une crise, mais un conflit. Et que quand on a intégré des conflits, on ne vit pas des conflits, mais on vit des frictions. C'est-à-dire qu'il y a des graduations hein, qui vont nous amener à la crise. Et que quand on a intégré des choses, oh, Dieu merci, on ne va pas reproduire ça plusieurs fois, qu'on va se contenter de quelque chose de plus simple.
Christian Simonin, nous évoquons depuis le début de cette émission la crise dans le couple. Il ne faut pas avoir peur de la traverser, alors cette crise, c'est important d'affronter, d'aller, je dirais, au cœur de ce qui se vit là.
Oui, parce que la seule manière de vraiment sortir d'une crise, c'est la traverser. Si on l'évite, on part avec sa crise à soi, elle va travailler à l'intérieur de nous et puis rien ne sera résolu. Mais si on l'aborde, qu'on la traverse avec toutes les épreuves que ça peut comporter, il est bien évident qu'à un moment, on en sort, les choses vont s'ouvrir, les choses vont s'éclaircir et qu'à ce moment-là, on va en ressortir avec, je dirais, plus d'amour quelque part.
Ceux qui viennent vous voir, les couples qui sont en difficulté, viennent parler dans votre cabinet, mais c'est difficile de parler, d'oser une parole devant vous, mais devant l'autre aussi, puisque je suppose que vous recevez les personnes à deux.
Oui, oui, oui. La thérapie de couple se fait effectivement avec les deux personnes ensemble et qu'il y a un moment où il est important que les gens arrivent à se parler eux directement quelque part.
Mais est-ce qu'ils se sont parlé déjà avant ?
Ah, il y en a qui se sont parlé, puis il y en a qui ne sont pas arrivés à se parler. Il y en a qui ne sont pas arrivés à se parler parce que justement, ils étaient souvent dans des choses trop émotionnelles. C'est-à-dire que la moindre petite, je dirais, agression de l'autre, souvent involontaire et souvent sans méchanceté, a pu être vécue comme une grande blessure. Donc à ce moment-là, les gens ont réagi d'une manière très très émotionnelle. Et souvent, la difficulté pour sortir de la crise, c'est ce recul avec les émotions qui font que, bah oui, on va se mettre à pouvoir entendre des choses désagréables. On va pouvoir entendre des choses sur ses faiblesses, sur ses imperfections, toutes ces choses-là, sans se sentir blessé. Et pour ça, il faut qu'il y ait une émotion qui soit pas trop forte, pas trop violente en tout cas.
Et peut-être que plus on se tait au fil des années, plus les émotions grandissent. Est-ce qu'il y a un rapport entre la non-parole et l'émotion qui peut grandir ?
S'il n'y a pas de parole qui va permettre à la fois de parler de ses sentiments, de ses émotions, qui va à la fois permettre de se resituer par rapport à l'autre, qui va aussi permettre de parler de l'amour qu'il y a dans la crise. Et c'est pour moi important justement de bien montrer aux gens, dans la grande majorité des cas, s'il y a crise, il y a aussi amour quelque part. Et donc c'est un élément à prendre en considération, il n'y a pas que les effets, je dirais, désagréables. Et donc la parole, c'est ce qui va permettre de remettre tout ça en place. D'ailleurs, avec le thérapeute, les gens parlent, ce qui montre bien l'importance que ça peut avoir dans la solution de la crise.
Vous avez dit que s'il y a crise, il y a amour. L'amour fait partie de la crise, si je vous comprends bien. Mais beaucoup de couples, justement, dès la première crise, se disent « mais on ne s'aime plus, alors séparons-nous ».
L'amour est, je dirais, quelque chose qui se rapproche plus ou moins de la haine, c'est les deux faces de la même pièce. Donc on peut toujours regarder la même, hein, soit tout le temps regarder l'amour, mais on risque d'être dans un amour béat, qui ne tient pas compte de la réalité, soit dans les crises, et c'est souvent ce qui se passe, les gens ne regardent que la haine, c'est-à-dire l'autre côté. Mais c'est important de leur montrer qu'il y a les deux faces, et que ces deux faces, elles peuvent être présentes en même temps, et que si, dans la solution d'une crise, il n'y avait pas d'amour, sur quoi on pourrait déboucher, hein ?
Repère, Béatrice Soltner.
Christian Simonin, pourquoi tant d'hommes et tant de femmes ont-ils du mal à se parler, à se dire vraiment ? Mais avant d'aller justement consulter un éventuel thérapeute de couple, pourquoi dans leur vie quotidienne n'ont-ils pas réussi à se parler tranquillement ? C'est le manque de temps ? C'est le manque de courage ? C'est la peur ?
Je crois qu'il y a un élément qui est important, c'est la peur de se dévoiler. Et se dévoiler, c'est aussi parler de ses faiblesses. C'est aussi parler de ce qu'on ne sait pas faire. C'est aussi parler de ses difficultés à parler, justement. C'est parler de toutes ces choses-là. Et dans une époque qui est quand même très narcissique, où on met en évidence que ce qui va bien, où on met en évidence, même à un niveau corporel, sans parler, je dirais, des qualités plus personnelles à un niveau psychologique, tout ce qui est faiblesse est très, très difficile à exprimer. Et vraiment se parler, c'est aussi arriver à se parler de ces choses-là. Hein. Dans la première phase passionnelle, romantique, où on fait que des compliments à l'autre, qui nous renvoie que des compliments, c'est pas compliqué. Hein. Et puis, il y a toute l'énergie pour. Hein. Commencer à parler de ses faiblesses, c'est une véritable gageure, quelque part. Hein. Et les gens qui vivent une crise sont amenés, justement, dans la thérapie de couple, à reconnaître leurs difficultés à ci, leurs difficultés à ça. Et à ce moment-là, l'autre peut progressivement les accepter.
Mais est-ce qu'on entend facilement ses propres faiblesses, d'une part ? Parce qu'on peut justement se cacher à soi, déjà, avant même de refuser celle de l'autre, mais déjà refuser sa propre faiblesse. Il y a déjà ce travail individuel.
Voilà. C'est une très grande difficulté, justement, d'accepter ses propres faiblesses qui nous permettront ensuite d'accepter celles de l'autre. Et si nous sommes dans des idéaux de couple parfait, de couple où il n'y a plus de difficultés, de couple où nous nous acceptons mutuellement à 100%, si nous sommes dans ces idéaux-là, effectivement, en même temps, nous sommes coincés. Hein, parce que la réalité, ce n'est pas ça. Hein, la réalité, c'est qu'il y a des difficultés dans la vie de tous les jours, il y a l'autre qui est comme il est, non pas forcément comme je voudrais qu'il soit, qu'il y a tous ces éléments de réalité, et si je ne les ai pas acceptés, eh bien, je ne parlerai pas de moi, et l'autre ne va pas se mettre à parler de lui.
Alors, tous les couples traversent des crises plus ou moins marquées. En quoi ces traversées périlleuses de la crise vont permettre de construire le couple dans la durée ?
Eh bien, justement, pour reprendre ce que l'on disait, si en traversant une crise, je m'accepte avec mes défauts et j'accepte l'autre avec ses défauts, au niveau de la réalité de tous les jours, ça va être plus simple. Si l'autre me reproche de ne pas avoir fait telle ou telle chose pour laquelle je m'étais engagé, ben je lui dis « bah oui, finalement, je ne l'ai pas fait ». À ce moment-là, ça ne sera plus un drame, ni pour moi, ni pour l'autre. Et à partir de cette reconnaissance, les choses peuvent évoluer, se mettre en place, avec justement toujours en toile de fond cet amour qui est présent, sur lequel les difficultés que l'on peut avoir sont des difficultés et puis pas plus. Hein. À ce moment-là, les difficultés sont gérées et l'acceptation des difficultés va éviter que les gens évoluent vers une haine qui progressivement va entraîner une crise parfois très très grande, quoi.
Alors encore faut-il que les deux partenaires soient d'accord pour jouer le jeu, de se dévoiler, de parler et de repartir.
Voilà.
C'est un processus qu'on vit à deux.
C'est un processus qu'on vit à deux. C'est important que les deux acceptent de passer par là, même s'il peut y avoir un qui commence et puis l'autre qui, au fil des mois ou au fil des années, s'y met. Mais s'y met parce qu'il sent qu'il est respecté par l'autre et puis que l'autre accepte de se dévoiler. C'est pas forcément en même temps que les deux commencent, je dirais, cette mise en place de quelque chose qui n'est pas facile.
Oui, parce qu'il y a des personnes qui vivent difficilement avec leur conjoint, qui sentent intuitivement qu'il faut essayer de faire changer quelque chose. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais l'autre en face n'est pas du tout à ce niveau-là et il se dit « mais continuons, ça marche très bien ». Ça peut être difficile à vivre ce décalage. Quand l'autre sent qu'il y a une crise, un non-dit, et puis que l'autre ne sent pas la nécessité de parler.
Oui, il peut y avoir un décalage qui est effectivement très douloureux pour celui qui regarde les choses en face et qui pour l'autre, est à un moment où il n'a pas envie de voir certaines choses. Donc il y a ce décalage. Mais Dieu merci, même s'il y en a un qui n'évolue pas, il y en a un qui peut, dans la conscience, se mettre à évoluer. Et progressivement, ça fait forcément changer la relation.
Ça fait déplacer l'autre.
L'autre, il ne peut plus parler de la même manière, il ne peut plus voir ou sentir l'autre de la même manière. Alors même s'il n'en a pas conscience, il y a quelque chose qui, au fond de lui, fait qu'il ne parle plus de la manière, qu'il ne fait plus les mêmes demandes, qu'il y a quelque chose qui se transforme. Et heureusement que, je dirais, s'il y en a un qui commence, l'autre peut souvent suivre.
Christian Simonin, pour terminer cette émission, vous accompagnez de nombreux couples depuis plusieurs années. Pour vous, il n'y a pas de cas perdu. Chaque couple dans cette situation peut trouver des ressorts pour avancer, s'il accepte de travailler.
Quand les gens viennent consulter, c'est qu'en général, ils ont envie d'évoluer, même s'ils disent le contraire parfois. Hein. Donc, il y a très très souvent des grandes possibilités pour que les gens change, pour que le couple bouge. Pour que les choses ne bougent pas, il faut soit que les gens restent figés l'un et l'autre sur leur position en disant « mais moi je n'ai pas à changer », qu'ils restent dans des positions très très orgueilleuses quelque part. Et à ce moment-là, bon, c'est vrai que les choses restent figées. Mais on voit aussi de temps en temps des gens qui, à travers la thérapie de couple, s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus rester ensemble, mais qui, avec le travail peuvent se séparer dans des conditions infiniment meilleures que ce qu'ils auraient pu vivre autrement.
Christian Simonin, merci.
Merci.
À bientôt sur RCF.